Néo-Québec Chronique.
Imaginez donc, nous sommes en 2023 au Québec et le Premier ministre François Legault signe une tribune dans un des plus grands quotidiens de la province, par exemple. Je dis bien imaginez, hein, imaginez qu'il signe dans cette tribune en demandant au Premier ministre du Canada, donc à Justin Trudeau, la reconnaissance officielle du français à côté de l'anglais. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Le scénario, il peut vous paraître presque improbable. Et pourtant, à quelques kilomètres de chez nous, plus précisément en Martinique, Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Lille, a signé, je parle de Lille, la Martinique, a signé le mois dernier une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde, demandant aux autorités la reconnaissance de la langue créole comme langue officielle de la Martinique. Et là, je cite, j'ouvre les guillemets, au même titre que le français. Je ferme les guillemets. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il demande la reconnaissance de la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français. Alors le préfet de Lille, qui est le représentant étatique dans chaque région au territoire de la France hexagonale et de ce qu'on appelle les Outre-mer, lui demande donc le retrait de cette proposition car elle serait contraire à la loi. La langue et son rapport à l'identité aux Antilles françaises, c'est le sujet, je vous ai dit qu'on allait en parler, que pour la première, Michel a souhaité aborder. Michel Martineau, je te redis bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, la langue et son rapport à l'identité aux Antilles françaises.
Oui, alors c'est un sujet, vous pensez bien, qui me passionne, non pas en tant qu'antillaise et plus précisément guadeloupéenne, où en fait ces questions font aussi l'objet de l'actualité, mais en tant que chercheuse. Donc je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et je travaille dans le cadre de ma thèse sur l'importance de la prise en compte de l'identité et son influence dans le paysage politique guadeloupéen. Et là, à y bien regarder, en fait, l'identité, elle est au cœur des réflexions. Je m'explique. Lorsqu'on cherche à construire une nation, on prend certains éléments en compte, comme par exemple la mémoire collective, avec la représentation de monuments ou encore de personnages emblématiques. Et en fait, la langue, elle est aussi un élément important et elle devient en fait un outil de construction et de revendication identitaire, puisqu'elle permet non seulement la valorisation de la culture, mais aussi l'identité de la nation. Revenons rapidement au Québec. Souvenez-vous, à l'automne 2021, une polémique a éclaté lorsque le président d'Air Canada s'est uniquement exprimé en anglais, alors que la conférence de presse avait lieu sur le sol québécois, unique province francophone du pays. Un événement qui a donc provoqué un tollé au point que le président d'Air Canada a donc dû présenter ses excuses. Et d'ailleurs, en guise de rappel, la charte de la loi française qu'on appelle la loi 101 tend à promouvoir la langue française comme langue officielle de la province québécoise face à la domination de la langue anglaise.
Ça, c'est des débats, de toute façon, qui continuent au Canada, au Québec particulièrement. Ça, on n'a pas fini. Oui. Mais juste pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, comment la langue est devenue au fil du temps un outil de construction de revendication identitaire?
Alors, la réponse, elle est très simple, Cyril. En fait, on parle de ce qu'on appelle l'homogénéisation d'une langue vernaculaire. Une langue vernaculaire, c'est un dialecte ou une langue parlée au sein d'une communauté sur un territoire donné. Donc, ce qui est le cas du créole. Et donc, cette uniformisation, elle est mise en place donc par l'élite politique dans le but de permettre justement une uniformisation culturelle et identitaire pour la nation. Et ça va permettre la reconnaissance et la distinction d'une nation par rapport à une autre. Et cette homogénéisation de la langue, elle va se manifester par le biais de l'écriture ou encore de l'imprimerie, par le biais de livres ou de journaux. Mais, et c'est là où il faut le souligner, uniformiser une culture et une identité par le biais de cette homogénéisation de la langue, ça vient supprimer en fait d'autres langues existantes.
Ah ben voilà.
Et si on regarde dans le cas des Antilles françaises, la langue créole, elle a été pendant très longtemps interdite d'usage. Parler le créole, c'était appartenir à une classe sociale inférieure, c'était réduire ses chances d'accéder à une meilleure éducation, un meilleur niveau de vie. Il ne fallait pas parler le créole à la fois dans les administrations publiques, mais aussi chez soi. Par exemple, moi, je me rappelle, je me refusais de parler le créole à mes parents jusqu'à mes 26-27 ans par peur de leur manquer de respect.
Oui.
Et c'était la même chose pour mes parents.
Sérieux?
Ouais. Exactement. Okay. Et ce que je veux dire ici, Cyril, c'est que la tribune de Serge Letchimy soulève un problème beaucoup plus délicat et sensible qu'il n'y paraît dans nos territoires.
Mm-hmm. On parle de territoire. Pourtant, on le sait, la Martinique, quand même, elle est devenue en 2016 une collectivité territoriale. Oui. Et ce n'est plus seulement une colonie, genre depuis 1946. Mais on voit qu'il y a encore des traces de la colonisation, notamment dans la construction de cette identité martiniquaise. Et antillaise de manière plus générale, parce que c'est beaucoup plus large.
Absolument. Et je me suis rendu compte de cela dans mes observations en tant que chercheuse, et même en discutant avec mes proches ou encore des hommes et des femmes politiques et universitaires que j'ai pu interroger dans le cadre de ma thèse. Il y a en fait de plus en plus un éveil des consciences. La population, elle va chercher de plus en plus à valoriser ses traditions, coutumes, son histoire. Je donne deux exemples. Par exemple, dans le programme scolaire, on était censé connaître les fleuves et les rivières de la France, alors qu'on ne connaissait même pas les noms de nos propres rivières. Un autre point, les instituteurs et institutrices ont prononcé cette fameuse phrase « nos ancêtres les Gaulois », tout en omettant les ravages de la colonisation, de l'esclavage, de la lutte pour la liberté et l'émancipation, avec justement la reconnaissance d'hommes et de femmes qui ont contribué justement à cette émancipation. Et il s'agit en fait donc pour beaucoup de revenir aux sources de ce qui les façonne en fait en tant qu'individus. Et ça va passer aussi donc par une revalorisation de la langue créole, considérée pendant longtemps comme une langue minoritaire face au français. Si je regarde toujours au niveau du Québec, les communautés autochtones en fait font déjà ce processus. Je pense notamment à Natacha Canapé-Fontaine qui, dans un rapport avec sa langue maternelle Linou, elle va valoriser sa langue à la fois comme un outil de résistance, donc face à l'imposition du français et de l'anglais, et une manifestation claire de son identité. Et c'est exactement ce que fait Serge Letchimy.
En fait, là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interrogations. Et bon, tu l'as dit, tu es sous la casquette de chroniqueuse qui n'est que accessoire. Tu es chercheuse, tu es doctorante, tu es en sciences politiques, tu es chercheuse. Quelles seraient tes observations, tes conclusions par rapport à tout ça?
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que même si la langue, ça reste un outil de revendication et de manifestation, notamment l'identité nationale, pour les populations dites minoritaires ou anciennement colonisées, la langue, ça reste un outil de domination.
Exact.
À l'heure où on a un éveil des consciences qui se fait de plus en plus ressentir, il paraît important quand même pour moi de montrer le caractère dominant que la langue peut avoir donc sur ces populations-là. Et le cas de la Martinique, ça me fait réfléchir, puisque même si le travail justement d'élévation des consciences se fait, ça revient aussi quand même à s'interroger sur le rapport que la France a avec ses anciennes colonies. Comment elle peut accepter cette diversité culturelle au sein de son territoire, notamment face à la notion d'universalisme. Même s'il y a des avancées notables, la sortie de Serge Letchimy me laisse à penser qu'un long travail de conscientisation est à faire, une décolonisation des esprits, du savoir aussi est à faire, que ce soit au niveau local que national. Lorsque je regarde le cas du Québec, le créole haïtien a littéralement transformé le langage courant avec l'entrée de plusieurs expressions de mots qui font maintenant désormais partie du langage courant à la fois pour plusieurs jeunes Québécois et Québécoises. Et cet événement, en fait, aussi vient s'intéresser de nouveau à des notions telles que le multiculturalisme, l'interculturalité, la diversité, l'inclusion et même l'identité, quand on a notamment parlé d'identité multiple. Autant de concepts et de notions, en fait, qui nourrissent la réflexion dans le monde académique, politique, et je dirais même en ce moment-là, même ce qu'on parle entre nous en ce moment. Mais aussi et surtout, et j'aimerais terminer là-dessus, la tribune de Serge Letchimy tend à poser une question toute simple, mais lourde de sens. Qui sommes-nous?
Et quelle est ta réponse?
Alors là, ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Justement, je travaille là-dessus dans le cadre de ma thèse. C'est une question qui est quand même délicate. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont chercher un moyen de se définir de différentes manières. Mais c'est vrai qu'aborder la question d'identité, notamment dans le politique, ça reste quand même quelque chose de très...
Sensible
dans nos territoires, parce que justement, quand je parlais de Serge Letchimy, maintenant la population demande à ce monsieur de se prononcer, à savoir est-ce qu'il est pour l'indépendance ou pas. On est arrivé à ce stade-là. Au niveau de la Guadeloupe, on est toujours en train de chercher à savoir où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on va vers une évolution institutionnelle, donc est-ce qu'on demande plus d'autonomie, mais il y a toujours la question de l'identité, qui nous sommes, qui revient. Et ça, même si je sais qu'une fois que j'aurai terminé avec ma thèse, elle sera publiée, je ne pourrai pas répondre à cette question-là. Mais c'est quelque chose qui est à la fois complexe, mais riche aussi à étudier.
Merci beaucoup, Michèle Martineau. Merci pour cette première chronique et puis surtout du sujet que tu as mis sur la table. Ça nous parle beaucoup, j'ai envie de dire, ici au Québec. Et tu l'as dit, avec le problème de la langue française. Et puis je vois ce que tu as dit là, langue comme outil de domination.
Ouais,
parce que ça fait disparaître des langues. Donc on l'a vu avec, les langues autochtones, ce que le français a fait. Là, de l'autre côté, on sait que du côté francophone, on se bat pour que l'anglais, qui est déjà dominant, mais n'efface pas le français. Tu parlais, puis je voyais plein de résonances avec des pays. Ben, on a parlé des sociétés, du moins des peuples autochtones ici, de leur langue, mais je pense à l'Afrique subsaharienne aujourd'hui où on parle plutôt le français. On appelle ça langue nationale, mais il y a tellement de plein de petites langues qu'on a effacées, les langues locales qui pouvaient...
Les dialectes,
oui. Oui, mais qui pouvaient surtout être vraiment les langues vernaculaires par plusieurs peuples.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant.